Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Et si nos plus grands combats n'étaient pas à l'extérieur, mais en nous-mêmes ? Aujourd'hui, on parle de ces luttes intérieures, souvent invisibles mais décisives, et surtout, comment en sortir gagnant ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivante Église. Aujourd'hui, on parle d'un combat que nous connaissons tous, même si on en parle peu, ces luttes intérieures, ces moments où l'on voudrait faire le bien, avancer, être en paix et pourtant quelque chose en nous résiste. Fatigue, pensées qui tournent, découragement, doute. Alors, comment comprendre ce qui se passe en nous? Comment ne pas se laisser entraîner? Et surtout, comment avancer très concrètement? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette émission pour en parler. Et en ligne, je reçois Sœur Marianne Leroux, bénédictine apostolique, engagée depuis plus de 30 ans dans l'accompagnement spirituel. Vous avez aussi été membre du service exorcisme du diocèse de Nantes et vous animez depuis longtemps des sessions sur le combat spirituel. Bonjour Sœur Marianne Leroux.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs.
Et enchantée de vous recevoir. Alors vous êtes en ligne tout au long de cette émission du jour. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, qu'est-ce qui vous a donné envie, Sœur Marianne, d'écrire ce livre? Ce livre s'intitule « Sortir gagnant de nos luttes intérieures » paru aux éditions des Béatitudes.
Alors c'est le thème du combat spirituel qui m'a intéressée, je pourrais dire, à mi-parcours de ma vie religieuse, où j'entendais parler de ce combat spirituel, mais lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, à essayer de comprendre de quoi il s'agissait, il y avait encore peu d'ouvrages sur le sujet. Et donc, justement, c'était par manque de connaissances que j'ai cherché plus loin. Et puis, j'ai aussi fouillé dans des bibliothèques de monastères et j'ai découvert les Pères du désert et tout leur enseignement sur ce combat spirituel, et ça m'a passionnée. J'ai cherché à comprendre, voilà, les racines de ce combat, et puis bien sûr, comment en sortir vainqueur avec le Christ.
Alors, j'invite dès le départ les auditeurs qui vont vous découvrir au cours de cette émission à découvrir aussi le livre. Ce livre est très accessible, ce livre accompagne, ce livre donne des clés. Alors, ces luttes intérieures, de quoi parle-t-on exactement? Parce que là, vous parlez de lutte intérieure, de combat spirituel. Est-ce que tout le monde, ma sœur, est concerné par ces luttes intérieures?
Alors je crois que tout le monde est concerné, mais que lorsque l'on est chrétien, lorsqu'on vit à la suite du Christ, ces luttes intérieures, ce combat spirituel est d'autant plus prégnant. Pour donner un exemple très simple, hein, dans l'Évangile, lorsque Jésus est baptisé, il est conduit au désert, poussé au désert pour y être tenté. Et en fait, c'est juste après son baptême. Et on voit que la vie chrétienne nous confronte à une adversité que peut-être on ne soupçonnait pas vraiment avant. Et plus on s'approche du Christ, plus on s'approche de la lumière, et plus on voit ce qu'il y a de trouble, et plus on voit ce qui résiste en nous. Et concrètement, alors ça on en parlera peut-être au cours de l'émission, mais il y a plusieurs raisons qui explique ces résistances intérieures, ces luttes intérieures.
On en reparlera.
Mais je crois que plus on avance dans la vie chrétienne, plus on découvre qu'il y a quelque chose en nous qui résiste et qui lutte contre nous. Alors, soit intérieurement, soit extérieurement.
Et là, on peut rejoindre aussi, vous nommez Saint-Augustin, les Pères du désert, le curé d'Ars. On peut nommer aussi le combat spirituel. À partir de quand parle-t-on vraiment, ma sœur, de combat spirituel?
Alors, en fait, on commence à en parler avec le Saint-Antoine, le Père des moines. C'est vraiment lui qui initie toute une littérature spirituelle dans la vie monastique et notamment sur le combat spirituel. Et il y a quelque temps, je demandais à une, à une sœur de notre communauté, là, au monastère de Saint-Thierry, qui enseignait depuis des années sur la vie monastique. Et je lui demandais quel était le texte fondateur du combat spirituel dans la vie monastique. Et elle a réfléchi et elle m'a dit, sans aucun doute, la vie d'Antoine par Athanase d'Alexandrie. Parce que Athanase d'Alexandrie est un père de l'Église, une source sûre. Et la vie d'Antoine, quand on la parcourt, comme disait la sœur, elle est pleine de diablerie, la vie d'Antoine. Il est confronté à tout un tas d'adversités très rocambolesques, mais en même temps qui sont très riches d'enseignements. Et c'est lui qui a initié, en quelque sorte, cette compréhension de l'adversité, dans la vie spirituelle.
Ce combat dans la vie spirituelle, et là je pense à ceux et celles qui vous écoutent, sœur Marianne Leroux, dans ces luttes intérieures qui peuvent être au fond dans une vie ordinaire, on est bien d'accord, c'est dans
Oui.
l'ordinaire de chaque jour. Ce combat, il se joue d'abord en nous, si on doit bien saisir un peu l'enjeu de ces luttes intérieures qui ne sont pas toujours vraiment visibles.
Oui, c'est ça. En fait, à vrai dire, il y a deux approches du combat spirituel. Il y a une approche extérieure et une approche intérieure. Ça se fonde sur deux citations de saint Paul. On retrouve soit dans la lettre aux Romains, alors ça c'est au chapitre 7, il va dire, ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Ce que je voudrais, cela je ne réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Alors pour ceux qui sont d'une génération un peu plus ancienne, ils se souviennent du chant d'Annie Cordy, j'aimerais bien, mais je peux point. C'est un peu de cet ordre-là. On voudrait faire le bien, on voudrait faire la volonté de Dieu, mais en nous, on se rend compte qu'à des moments, on fait l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Donc ça, c'est le combat spirituel sous son aspect intérieur. Et puis, il y a un autre aspect que saint Paul développe, c'est notamment dans la lettre aux Éphésiens. Il parle de l'équipement de combat donné par Dieu pour tenir contre les manœuvres du diable. Et de fait, il existe des tentations qui viennent de l'extérieur et il existe des adversités qui viennent de l'extérieur. Et donc, les auteurs spirituels vont soit insister sur plutôt l'aspect extérieur par les tentations ou soit par l'aspect intérieur, le tiraillement intérieur. Mais en tous les cas, ça rejoint un peu la même chose, forcément. C'est ce qui en nous va être complicité du mal et qu'il faut pouvoir démasquer.
Donc, apprendre à démasquer, trouver les bons outils aussi pour apprendre à discerner, pour pouvoir démasquer. Alors, pourquoi est-ce si difficile de faire le bien?
Ah ben ça, c'est une longue histoire, hein. Ça remonte à la Genèse avec ce qu'on appelle le péché originel. Et cette tendance à nous laisser attraper par les voluptés du mal, c'est étonnant, hein. Pourtant, on désire le bien, mais il y a quelque chose en nous qui est affaibli par le péché, et ce qu'on va appeler aussi la triple concupiscence ou la convoitise, et notre volonté doit pouvoir apprendre avec la grâce de Dieu, à choisir le bien. Mais pour choisir le bien, il faut aussi rejeter le mal. Et ça, c'est inscrit dans notre nature humaine, cette faiblesse vis-à-vis du mal. On peut le voir quelquefois quand on voit comment on peut être fasciné par le mal. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent, qui est assez simple. Quand ça fait partie du concret de la vie. Parfois, quand on est sur la route, on peut voir qu'à un moment donné, il y a un accident sur la route et que sur le bas-côté, eh bien, les pompiers s'agitent auprès de la voiture accidentée. Et quand on dépasse, je ne sais pas si les auditeurs sont comme moi, mais parfois je suis tentée de regarder l'accident et de voir s'il y a une personne qui est blessée ou autre. Et je me suis rendu compte à travers cela que j'étais parfois séduite par des images qui n'étaient pas forcément pour du bien. J'ai dû convertir un petit peu mon regard en me disant, plutôt que de regarder ce qui se passe et voir si quelqu'un est complètement pris dans la voiture ou je ne sais quoi, bah de prier, un, pour la personne, les personnes qui sont impactées, et deux, pour les pompiers, tous ceux qui viennent au secours, et d'avoir un réflexe plutôt spirituel de bien, plutôt que de me laisser, comment dire, attirée par regarder ce qui n'est pas forcément favorable, voilà. Qui est une curiosité, je dirais une curiosité malsaine. Donc ça, c'est un exemple tout bête, mais ça ponctue nos journées, la manière dont on regarde. Et ça, Jésus en parlera aussi par rapport à l'adultère, poser un mauvais regard. Très vite, on peut percevoir qu'en nous, voilà, il y a une complicité au mal qu'il faut pouvoir débusquer.
Pour débusquer, il faut apprendre à discerner. Comment apprendre à discerner et ne pas se laisser entraîner dans la convoitise, peut-être dans le mensonge, enfin tout ce qui donne un état de faiblesse et faiblesse spirituelle qui n'invite pas à avoir les bonnes armes pour vivre ces luttes intérieures et ce combat spirituel dont vous parlez tout au long aussi de votre livre, ma sœur.
Donc, votre question, si je comprends bien, c'est comment discerner, c'est
Ouais,
ça?
ouais.
Comment discerner le bien du mal? Alors, ça, c'est toujours la question un petit peu difficile, hein.
Avec
C'est un
notre époque,
exercice, en fait.
permettez-moi, avec notre époque actuelle.
Oui. C'est toujours un exercice un petit peu difficile parce qu'il s'agit de démêler ce qui se passe en nous. Et en fait, je crois que plus on s'approche du Christ, comme je disais, plus on commence à y voir clair. C'est-à-dire qu'on va pouvoir distinguer petit à petit si l'influence elle est mauvaise, si l'influence elle est bonne. Petit à petit, c'est ce sens intérieur qui va se développer. Alors, comment on le repère? Bien souvent en faisant la relecture de nos journées ou en faisant la relecture d'un événement où on a le sentiment de s'être cassé la figure, d'avoir réagi mal. D'être parti dans notre imaginaire et d'avoir perdu du temps, d'avoir succombé à une tentation, et bien de faire re la relecture de ce moment-là, de se poser 5 minutes et se dire, mais pourquoi là je suis parti de travers? Et essayer de remonter la machine, de remonter l'événement et de voir comment c'est parti de travers. Et c'est ce point d'impact-là qui est intéressant, de voir comment on s'est laissé embarquer, de travers. Et c'est souvent, et c'est ce qu'ont fait les pères du désert et tous les maîtres en vie spirituelle, c'est qu'ils ont appris à relire les événements et à tirer leçon de leurs erreurs, de leurs échecs, de leurs dégringolades, et ils en ont tiré des leçons spirituelles pour eux-mêmes. Ça, c'est une première clé de discernement. C'est apprendre à relire ses échecs et pour faire de ces échecs des réussites, en fait.
Je me permets de lire un extrait de votre livre. Tout au début du livre, vous écrivez, tous les maîtres en vie spirituelle nous l'enseignent. Il faut être vigilant jusqu'à la fin de sa vie. Pour ceux qui ont déjà remporté les premières victoires, il est donc nécessaire de rester sur ses gardes sans se reposer sur les biens acquis comme derrière une protection. En fait, on peut entendre que il faut toujours, quel que soit le chemin parcouru, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce pèlerinage ici-bas, rester vigilant, ma sœur.
Oui,
Le
il faut
chemin
rester
n'est
vigilant.
jamais fini, même
Non,
pour
non, non. Et
ceux qui
puis,
ont une avancée spirituelle.
oui, c'est ça. Et ceux qui ont une avancée spirituelle, il faut bien se méfier parce que c'est là qu'il peut y avoir des subterfuges très, très subtils
Vous pensez à
qui
quoi?
devraient. Ah, je pense à tout ce qui s'est passé dans notre vie ecclésiale ces derniers temps avec des personnes qu'on a mises sur un piédestal et puis. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, il s'était laissé entraîner vraiment de travers. Et je crois que il faut vraiment. Ce qui nous garde, c'est la veille et la veille dans l'humilité. Ça, c'est. Alors, moi, j'aime beaucoup, évidemment, Saint Benoît qui dit, il faut, avant d'être saint, il faut d'abord le devenir. Et Saint Paul dira, il nous invite à méditer sur l'aboutissement de la vie de ceux qui ont été pour nous un exemple. Mais c'est l'aboutissement de la vie. Et il nous faut avoir à l'esprit, peut-être pour nous garder dans l'humilité, dans une bonne veille intérieure, si demain, il m'arrivait de pouvoir remettre ma vie au Seigneur. S'il m'arrivait un accident, un arrêt cardiaque, et que demain je me présentais au Seigneur, comment je me présenterais? Qu'est-ce que j'aurais à lui remettre? Est-ce que j'aurais besoin d'un pardon? Est-ce que j'aurais besoin de... Et de se remettre, alors ça c'est tous les maîtres en vie spirituelle qui nous disent, c'est une bonne, comment dire, un bon scanner, se mettre sous le regard du Seigneur de temps en temps en disant, en vérité, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Et comment est-ce que toi tu me vois si demain je me présente à toi? Et ça, c'est des petits exercices tout simples, mais qui nous permettent de nous remettre en vérité et de ne pas partir dans une vaine gloire et orgueil qui nous fait croire qu'on est arrivé à la fin de notre vie en bien comme il faut.
Alors, vous consacrez dans cet ouvrage tout un chapitre. Hein. Il y a plusieurs chapitres, ma sœur. Dans le chapitre 5, c'est tout un chapitre sur l'orgueil et l'humilité. Et vous rappelez aussi que l'humilité est l'une des armes par excellence. Vous citez aussi une parole de Sainte Mariam de Bethléem qui disait: En enfer, il y a beaucoup de vertus, mais il n'y a pas l'humilité.
Oui, c'est ça. Oui, et l'humilité a parfois mauvaise presse parce qu'on se dit c'est l'humiliation, etc. Pas du tout. L'humilité, c'est ce qui permet au Seigneur de prendre toute sa place en nous et de nous faire advenir à nous-mêmes et d'être encore plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc en fait, l'humilité, c'est vraiment un trésor, une perle rare. Et il faut pas en avoir peur, il faut pouvoir demander, je crois, au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à être humble, enseigne-moi les voies de l'humilité et apprendre à recevoir les petits reproches dans la vie quotidienne, apprendre à vivre les échecs sans se décourager. Tout ça, c'est un vrai chemin d'humilité qui va nous apprendre à avoir les bonnes armes dans le combat spirituel. Être capable de se remettre en cause et de repartir, de pas s'effondrer, de compter sur la grâce de Dieu et de repartir. Je sais plus qui disait que le saint, c'est pas celui qui est parfait, c'est celui qui sait se relever à chaque fois qu'il chute. Et ça, c'est vraiment se relever, c'est compter sur la grâce de Dieu. Et là, c'est un exercice aussi d'humilité.
Qu'est-ce qui revient le plus souvent, ma sœur, chez les personnes que vous pouvez accompagner, que vous pouvez aussi rencontrer aussi avec votre propre expérience?
Ah, je dirais peut-être deux choses sur deux aspects. Parfois, il y a beaucoup la mésestime de soi. Et ça, c'est le mauvais aspect de l'humilité, hein. Pour avoir une bonne humilité, il faut avoir une juste estime de soi. Ni trop, ni pas assez. Reconnaître les dons que le Seigneur nous fait, les mettre à profit, rendre grâce, mais pas s'enorgueillir là-dessus. Donc, la mésestime de soi, l'arme contraire, c'est la juste estime de soi et la bonne connaissance de soi. Voilà, ça c'est souvent c'est un point un petit peu un point difficile et un point d'achoppement. Et puis l'autre chose, c'est la peur, mais ça la peur vis-à-vis du diable et ça c'est un peu de la superstition et c'est quand on connaît pas assez bien comment se situe le diable par rapport à Dieu, mais il y en a. Il y a des personnes qui ont peur du diable. Alors c'est vrai qu'il faut s'en méfier, ça c'est clair. Il est très très intelligent, très subtil. Il peut tendre des pièges et il n'en manque pas d'entendre. Mais en même temps, c'est pas du côté du diable qu'il faut regarder, c'est du côté de Dieu. C'est vraiment l'exemple de Pierre qui marche sur les eaux. Pierre, quand il marche sur les eaux, tant qu'il regarde le Christ, c'est bon, il marche sur les eaux. Mais à un moment, il y a la tempête, il y a le vent, il y a la bourrasque. Et il se laisse impressionner par le vent, la bourrasque, par la tempête. Et il se laisse impressionner par quelque chose qui est réel. Ce vent, cette tempête est réelle. Et en réalité, une tempête, surtout pour des hommes de Galilée qui étaient pêcheurs, mais pas des marins aguerris, ça pouvait faire peur. Mais du coup, il regarde ce qui fait peur au lieu de regarder Jésus. Et la clé, c'est bien cela. C'est de ne pas regarder vers ce qui fait peur, c'est-à-dire vers le diable, mais de regarder vers Jésus. Et là, on marche sur les eaux. Mais voilà, la peur, dès qu'on a peur dans le combat spirituel, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on se laisse impressionner. Et voyez, si je donne un autre exemple dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de David et de Goliath. La différence avec David et tous ceux qui l'ont précédé, c'est que David n'a pas peur et s'appuie sur son expérience avec Dieu pour croire que ce Goliath qui fait peur à tout le monde, lui, avec la grâce de Dieu et son petit caillou, il peut faire tomber l'immense Goliath. Donc la question de la peur, faut vraiment la débusquer aussi. La peur, et je dirais, et l'autre, la mésestime de soi,
Donc,
le manque de
veillez
connaissance
à
de
tout
soi.
ça. Vous écrivez dans votre livre, la connaissance du diable, c'est important aussi de l'entendre. Vous venez de rappeler qu'il faut éviter la peur et ne pas laisser rentrer cette peur. La connaissance du diable est limitée. Il n'a d'accès que sur les zones extérieures de notre être, la sensibilité, l'imagination, etc. C'est rassurant. De se rappeler que il est limité. Dieu permet qu'il soit limité, ma
Ah
sœur.
oui, complètement. D'abord, il est limité, il peut pas rentrer dans le tréfonds de notre âme et dans le fond intérieur de nos pensées. Le tréfonds de notre âme, c'est le siège de Dieu. Dieu demeure au fond de notre âme, il habite notre âme, et là, vraiment, l'ennemi n'a pas accès. Même dans les codes de possession, c'est la volonté ou c'est le corps qui est, alors ça, c'est des cas extrêmes, hein, mais qui est touché, mais l'intérieur de l'âme, c'est le temple de Dieu. L'ennemi n'y a pas accès. Et puis, il y a une autre image aussi qui est très intéressante pour expliquer que la puissance du diable est limitée. C'est saint Augustin qui dira que le diable est comme un chien enchaîné. Et alors, le chien enchaîné, il mord, il bave, mais tant qu'on s'approche de lui, on n'a rien à craindre. Par contre, on s'approche de lui à chaque fois qu'on sombre un peu dans les voluptés ou qu'on, voilà, comme on dit, faut faire attention à pas tenter le diable, faut pas trop s'approcher de lui. Mais tant qu'on s'approche pas de lui, on n'a rien à craindre. Et tant qu'on est accroché au Christ, voilà, on n'a rien à craindre.
Alors, vous êtes sœur Marianne Leroux, notre invitée dans ce Vivante Église. On va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour voir plus concrètement. On avance avec vous et on avance. J'invite les auditeurs aussi à découvrir cet ouvrage paru aux éditions des Béatitudes. Il s'intitule Sortir gagnant de nos luttes intérieures. Il y a de nombreux témoignages, des textes de référence que vous donnez, des citations et vous donnez de nombreuses références des Pères du désert, de Saint Augustin, des grands maîtres aussi de la vie spirituelle, de Thérèse de Lisieux à Sainte Thérèse d'Avila et on se retrouve juste après cette pause musicale. Vous restez avec nous.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit, nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
De retour dans l'émission Vivante Église avec en ligne Sœur Marie-Anne Leroux, bénédictine apostolique. Vous avez plus de 30 ans d'expérience d'accompagnement spirituel et vous venez donc d'écrire cet ouvrage « Sortir gagnant de nos luttes intérieures » aux éditions des Béatitudes. Avec ces 30 ans d'expérience, Sœur Marie-Anne Leroux, dans un monde confus, dans un monde où on lutte, dans un monde de mensonges parfois, dans un monde de paraître, dans un monde qui peut être un monde de vitrine et parfois aussi dans les relations, comment garder les bonnes armes pour être prêt? On parle de lutte intérieure et on parle de combat spirituel avec vous dans ce Vivante Église aujourd'hui. Alors comment s'armer dans un monde qui est si confus et parfois fait de mensonges? Sœur Marie-Anne.
Oui, alors c'est vrai que vous l'évoquez, un monde de mensonges, bien souvent de duplicité, de vitrine. Vous évoquez la vitrine. Effectivement, il y a beaucoup de paraître, etc. Je crois qu'effectivement, le monde d'aujourd'hui nous invite à nous montrer toujours meilleurs que nous ne sommes pour ne pas se laisser manger par des plus forts que nous. C'est un peu... Parfois, on le perçoit, hein, qu'il y a une rivalité au sein de ce monde qui nous permet pas de montrer notre vulnérabilité et notre faiblesse. Et pourtant, je crois que sous le regard du Seigneur, on peut apprendre à se montrer en vérité. Je crois que l'enjeu, c'est de chercher ce qui en nous est la pureté d'intention. Ça, c'est vraiment une arme très belle dans un monde confus et qui nous pousse à nous montrer autre que ce que nous sommes, c'est d'apprendre à rechercher ce qui en nous est vrai et de descendre au fond de notre cœur et de chercher la pureté d'intention, la vérité, et d'être en vérité sous le regard du Seigneur. Lui, il va pas nous condamner, il va plutôt chercher toujours à nous relever, le Seigneur, et donc apprendre à se mettre sous son regard en vérité. Et ça peut passer aussi par des personnes en qui on a profondément confiance. Et ça, c'est important de pouvoir dire les choses, de s'exprimer, de parler, de dire nos pensées cachées, nos pensées honteuses à quelqu'un. Alors bien sûr, nous, dans la vie d'Église, il y a le sacrement de réconciliation qui est une arme, puisqu'on va non seulement pouvoir demander pardon au Seigneur, être réconcilié, mais en plus dire peut-être ce qui fait honte, ce dont on n'oserait pas dire à quelqu'un d'autre. Et là, il y a le secret de confession qui est vraiment une belle arme. Mais d'apprendre, voilà, à être de plus en plus en vérité et et repérer nos petits mensonges. Vous savez, les fausses excuses qu'on peut dire facilement pour justement se protéger, du genre « Ah non, mais je l'ai pas fait exprès » ou alors « C'est pas ce que je voulais dire » ou bien « Non, mais j'avais pas le temps là de le faire ». Et si on regarde en vérité, si j'avais le temps, mais en fait, je l'ai pas mis dans mes priorités ou j'avais pas le courage de le faire. Donc ça, c'est Ce qui nous aide, c'est de faire ces petites relectures, ces petites pauses intérieures, se dire là, j'ai un malaise, comment ça se fait? Si je descends au fond de mon cœur, en vérité, qu'est-ce que dit le fond de mon cœur? Et d'apprendre à être en vérité, ça nous donne une grande liberté intérieure au milieu d'un monde qui, bien souvent, est rompu de convoitises et de, non, j'allais dire, de roublard et de roublardise. Et on arrive à se positionner après beaucoup mieux quand intérieurement on est bien ancré dans une vérité avec soi-même. Et c'est
Alors,
tout un chemin, hein, c'est
tout,
tout un chemin.
vous nous rassurez, donc au fond, c'est le chemin de toute une vie, sœur Marianne.
Oui, c'est le
Hein?
chemin de toute une vie et c'est très, comment dire, c'est très encourageant et très enthousiasmant parce que plus on fait, plus on grandit comme dans la liberté et dans la vertu, plus il y a quelque chose qui en nous se déploie et quelque chose qui devient plus naturel, plus facile. Et c'est Saint Benoît qui dit après, on court sur les chemins du commandement du Seigneur. C'est, on se libère de certains poids, de ce qui nous, comment dire, de ce qui pourrait nous tirer en arrière. Donc c'est un chemin, mais c'est un chemin dans lequel on avance de plus en plus. Ça, faut en être convaincu et s'en réjouir. Il y a quelque chose de vraiment enthousiasmant.
Alors, vous parlez de chemin. Peut-on avancer seul sur ce chemin? Et en particulier dans ces périodes peut-être de crise, de traversée, de lutte, est-ce possible de faire cette route sans être accompagné et sans parler?
Alors dans votre question, vous supposez déjà la réponse. Eh bien, non, effectivement, c'est périlleux d'avancer seul. Comme on le dit, un chrétien seul est un chrétien en danger. C'est sûr qu'il faut pouvoir être accompagné, être aidé. Alors aujourd'hui, c'est pas très facile toujours de trouver un accompagnateur, hein. Mais j'aime beaucoup ce que disait, je crois que c'est André Louve qui disait cela, que lorsqu'on cherche en vérité à être aidé, et que on ne trouve pas tout de suite quelqu'un qui peut nous accompagner, le Seigneur saura trouver des moyens pour nous aider. Parfois, c'est une personne qui arrive au bon moment et qui va soit nous écouter et nous donner un bon conseil, soit nous donner une parole et tout d'un coup c'est éclairant, soit on va fouiner dans une librairie religieuse, tout d'un coup on va tomber sur un livre qui va nous éclairer et nous aider. En fait, le bon Dieu, il a plus d'un tour en son sac. Si on cherche vraiment à être aidé, à avoir des conseils, à être accompagné, à rencontrer des personnes d'église, et qu'on ne les trouve pas, eh bien, le Seigneur nous trouvera d'autres moyens pour nous aider. Il n'est pas à court d'idées, le Seigneur, pour nous accompagner. Et parfois aussi, si on voit que, bien, on a beau chercher, beau demander, on ne trouve rien. Eh bien, j'aime dire que quand le Seigneur ne répond pas, c'est qu'il nous fait confiance. Mais il faut avoir cherché avant. Faut avoir cherché. Faut chercher des appuis. Il faut demander conseil à des gens qui sont expérimentés. Mais parfois, je me souviens de jeunes, c'était leur grand-mère, hein, qui ont été leur première accompagnatrice, hein. Parfois, il faut pas chercher toujours très loin. Il y a des grands-mères qui sont pleines de sagesse et de bon sens et qui nous remettent dans le réel. Parce qu'en fin de compte, dans le combat spirituel, ce qui nous aide aussi beaucoup, c'est le bon sens et le réel.
Le bon sens et la cohérence. Et puis parfois aussi, s'il n'y a pas le ou le l'accompagnatrice ou l'accompagnateur sur le chemin, il peut y avoir des amis et puis des livres. Il y a cet ouvrage qui comporte plusieurs chapitres, hein, et donne des clés pour traverser. Est-ce qu'on peut parler de ces luttes intérieures, de ce combat spirituel, comme des périodes de la vie, de crise, mais pour grandir arriver peut-être à maturité, sœur
Oui,
Marianne.
tout à fait. Une crise, une épreuve sera toujours une crise. Et ça, c'est l'étymologie se rejoint. Hein. Et puis, dans les épreuves, on peut être particulièrement tenté parce qu'on est affaibli. Donc, l'ennemi, il faut le dire, qui est un faucheton, il aime bien nous faire des croche-pattes, particulièrement quand on est faible. Donc les moments d'épreuve, de crise sont des moments de vulnérabilité, mais aussi ce sont des moments où on peut justement chercher plus loin dans nos racines intérieures, dans notre fort intérieur, dans, on pourrait dire dans nos tripes, dans la foi, le secours de Dieu. Et du coup, on va l'appeler au secours comme jamais on l'a appelé au secours. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'approfondit en nous, aussi bien humainement que spirituellement. J'aime beaucoup montrer que vraiment c'est lié entre cette croissance humaine et cette croissance spirituelle. Et comme vous le disiez, c'est ces moments de crise, d'épreuve, qui sont parfois des périodes qui durent, hein. Ça en rajoute sur l'épreuve. Il n'y a pas simplement parfois l'intensité de la crise ou de l'épreuve, mais se rajoute dessus la durée. On se dit, mais quand est-ce que ça va finir? Mais tout ça, ces moments-là, qui sont des moments pas faciles, nous obligent à aller chercher très loin, au fond de nous-mêmes, au fond de notre foi, les raisons de tenir et les manières de tenir. Et du coup, ce sont des moments où nos racines plongent plus profond et donc qui vont donner à l'arbre que nous sommes de grandir encore plus et de devenir plus fort. Donc curieusement, ces moments de crise, si on les vit bien sûr en continuant de s'attacher au Seigneur et en continuant de vouloir choisir le bien, eh bien là, nos racines intérieures, notre densité humaine va s'approfondir.
Alors,
Donc,
dans...
mais simplement, c'est vraiment après qu'on en voit les bénéfices. C'est ça qui est pas très facile. C'est qu'en attendant, dans l'épreuve, faut tenir bon.
Vous vous appuyez sur de nombreux passages bibliques hein, où vous rappelez à plusieurs reprises dans votre ouvrage sur Marianne les tentations du Christ au désert. Qu'est-ce que cela peut éclairer aujourd'hui et ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui, qui deviendront peut-être aussi, et je conseille cet ouvrage aux éditions des Béatitudes, sortir gagnant de nos luttes. Pourquoi ce rappel incessant aussi important de ces tentations du Christ au désert?
Alors, déjà, ce qui est important, c'est de voir que le Christ a été tenté, mais qu'il n'a pas péché. Donc là, c'est vraiment ce que dit saint Paul, hein, Éphésiens 6, les tentations qui viennent de l'extérieur. Il y a vraiment, voilà, c'est mystérieux, hein, mais voilà, il y a encore l'action de l'ennemi qui cherche à entraver notre marche. Et donc, le Christ a été tenté, mais il n'a pas péché. Et donc, ça veut dire que il a eu la victoire sur les trois tentations qui lui ont été proposées par le diable. Alors, ce sont trois tentations qui concernent. Alors, il est dit qu'à la fin, le diable ayant épuisé toutes les tentations, ça veut dire qu'à travers les trois tentations, il y a un peu l'ensemble des tentations qui sont représentées. Le pouvoir, la luxure, l'orgueil, voilà, enfin, et toutes les petites ramifications. Le Christ a été vainqueur et ça veut dire qu'avec lui, on peut être vainqueur de toutes ces tentations. Il les a remportées pour nous et il les a remportées sur tous les plans. Donc, lorsqu'on est tenté et qu'on perçoit vraiment que c'est une tentation, se dire, ben, Seigneur, t'as vaincu cette tentation pour moi, eh bien, rends-moi victorieux. Mais c'est vraiment important de s'attacher au Christ, non pas par ses propres forces. Alors, bien sûr, c'est pas sans nous, hein. Le Christ nous a sauvés, c'est sûr, mais il a besoin de notre collaboration pour que son salut s'accomplisse dans nos vies. Donc il faut qu'on se décide, mais en tous les cas, par la grâce de Dieu et par la victoire du Christ, on peut remporter des victoires.
Alors, après toutes ces années, qu'est-ce qui vous touche encore dans ce thème en particulier des luttes intérieures et du combat spirituel au travers aussi de toutes ces retraites hein, que vous avez pu animer et ces personnes que vous avez pu écouter et rencontrer, ma sœur?
Peut-être ce qui me touche le plus, c'est le mensonge. Hein. On dit bien que l'ennemi, c'est le père du mensonge. Mais le mensonge a de multiples facettes. Hein. On parle aujourd'hui aussi beaucoup de manipulation. Où on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont travesties pour le profit de quelques-uns parfois. Et le mensonge, il s'immisce un peu partout et y compris bien sûr dans notre cœur. Et je crois qu'une des armes qui est vraiment que j'encourage, c'est l'arme de la vérité, de l'intention vraie. Voilà, le mensonge, il est quand même aussi beaucoup, on le voit dans les réseaux sociaux. Tout ce qui est, vous voyez, le mensonge, ça peut être l'exagération aussi. C'est-à-dire que ça part d'un fait, d'un trait qui peut être vrai, un petit détail, mais qu'on va grossir. Vous voyez, c'est comme le produit moussant, le produit faisselle. C'est une petite goutte, on met beaucoup d'eau dessus et ça fait beaucoup de mousse. Mais la mousse, elle est, il n'y a rien dedans, c'est vide. Et ça impressionne parce que ça remplit tout, mais c'est vide. Et l'ennemi procède de cette manière-là. Il y a des petits impacts qui font beaucoup de mal, par exagération, et ça, c'est l'œuvre du mensonge qui gonfle des événements, qui gonfle des choses, qui nous fait croire des choses qui n'existent pas, qui transforme le vrai en faux et le faux en vrai. Voilà, donc toute cette quête de vérité, d'abord de vérité avec soi-même et dans les relations, est vraiment importante. Et le mensonge abîme beaucoup de relations. Donc, oser faire la vérité avec ses proches, oser s'expliquer, prendre le temps de s'expliquer, de se comprendre, ça, c'est vraiment une belle clé,
C'est
accessible à tous.
oui, une belle clé, une clé qui conduit à avoir une relation ajustée, une relation au fond saine, sans mensonge. Sœur Marianne Leroux, qu'est-ce qui vous donne, on va terminer cette émission autour de votre ouvrage Sortir gagnant de nos luttes intérieures, au fond, sortir gagnant, c'est-à-dire qu'au bout, il y a la victoire. Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance, Sœur Marianne, dans ce monde un peu confus, ce monde fait aussi de paraître et de mensonges. Le Christ lui-même, vous l'avez rappelé, a été tenté lui-même, a eu cette victoire. Alors, quelle est cette espérance que vous avez pour aujourd'hui?
Eh bien, je crois que justement, plus l'ennemi tente sur le mensonge ou des aspects comme ça, plus on grandit en vérité. Et donc, au bout d'un moment, ça se retourne contre lui. Et c'est ça qui est très heureux avec le Christ, c'est que avec le Christ, les pièges peuvent être des tremplins. On le voit aussi dans l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. C'est une très belle histoire qui illustre très bien cela, c'est-à-dire qu'avec le Christ, l'adversité peut être au profit de sa providence, de la providence divine, et faire advenir un bien meilleur. Et Dieu sait tirer du bien du mal. Et ça, c'est la belle victoire déjà qu'on peut voir dans nos propres vies, comment d'une épreuve on peut sortir grandi. Et ça, c'est vraiment une chance que nous avons, c'est de pouvoir, avec la grâce de Dieu et l'aide du Christ, tirer un bien du mal.
C'est la parole de fin, donc une parole au fond d'espérance. Merci infiniment, Sœur Marianne Leroux. Je rappelle que vous êtes bénédictine apostolique, que vous avez plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement spirituel, ancienne membre aussi du service exorcisme du diocèse de Nantes. Vous animez donc depuis plusieurs années des sessions sur le combat spirituel et vous venez donc d'écrire ce livre qui est paru récemment aux éditions des Béatitudes, Sortir gagnant de nos luttes intérieures. Chers auditeurs, découvrez cette ouvrage avec les bonnes clés pour tenir bon et traverser les crises et le combat pour gagner la victoire. Sœur Marianne Leroux, merci infiniment.
Merci à vous, Nathalie. Merci, au revoir à tous les auditeurs.
Au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.